Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end bien sûr, c'est l'essentiel, merci d'être là comme chaque week-end. Une heure de tech, c'est ce qu'on vous propose à la fois sur BFM Business, radio-télé, sur la chaîne Tech & Co, sur la chaîne YouTube de Tech & Co, que ce soit en audio ou en vidéo. Je sais que vous êtes là et je vous en remercie, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle, eh bien un spécial actu entre le masque d'AR, VR d'Apple qui semble être dans les starting blocks, les réseaux sociaux, l'actualité des réseaux sociaux. Sonos qui a lancé de nouvelles enceintes et puis tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, on a de quoi vous raconter 2-3 trucs. Je vous rappelle que le hashtag DQJMM est à votre disposition sur Twitter, bien sûr, si vous voulez réagir. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Un club de la presse IT. Alors là, franchement, la crème de la crème, Anthony Morel, déjà, ça c'est... En appetizer, comme on dit. Salut Anthony.
Salut. Oui, je suis un tuc. Ouais. Ouais. Je suis l'apéritif.
Tucman, le tuc de la tech. C'est pas mal en plus, ça sonne bien ça.
Oui, très bien.
Tuc de la tech, c'est bien.
Joli.
Anthony, qu'on retrouve le matin donc, sur BFM Business, vous le savez, à la mi-journée sur RMC, à la radio, à la télé. Et Nicolas Lelouch. Salut Nicolas.
Bonjour François, salut Anthony.
Salut.
On a déroulé le tapis rouge pour Nicolas Lelouch.
Ah bah attends, il vient nous voir, on est hyper contents.
Journaliste.
Pas beaucoup en ce moment, mais vous me manquez.
Ah mais c'est bien,
mais
c'est ça.
Mais c'est pareil.
Mais
pareil.
C'est, vous écoute,
faut cultiver la rareté, c'est ça qui est bien.
Tu nous écoutes ? Bon, déjà, c'est
bien positif. Bien sûr que j'écoute.
Alors, qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière à 32 minutes du podcast de Quoi je me mêle ?
C'est le moment où tu as
fait. Où j'ai éternué.
Ouais, t'as éternué, oui.
Où t'as fait une blague. Comme ça, tu te plantes jamais, il fait toujours des blagues.
Ouais, il fait
une blague.
Il fait un tel truc.
Je sais pas comment je dois le prendre. Enfin, journaliste donc à Numérama, bien sûr. Merci d'être là, Nico.
Avec plaisir.
Avec beaucoup d'actu, on le disait, on va commencer par l'intelligence artificielle, ChatGPT, OpenAI, etc., etc. Alors, on a beaucoup de choses à vous raconter là-dessus. Peut-être débuter, Anthony et Nicolas, sur cette lettre qui a été en fait co-rédigée, co-écrite par plus de 1100 personnalités de la tech. Et alors, c'est hyper large. Elon Musk, le patron de Tesla et de Twitter. Steve Wozniak, qui est quand même le cofondateur d'Apple. Bon, voilà, c'est pas n'importe qui. Alors, des fois, il part un peu en vrille, Steve Wozniak. Mais bon, voilà.
Elon Musk aussi, d'ailleurs.
C'est un peu le roi commun de toutes les personnes citées pour l'instant.
Ce qui fait que d'un coup, on se dit cette lettre, oulala. Mais bon, il y en a quand même 1098 autres.
Ouais, c'est ça.
Donc, voilà. Et c'est intéressant parce que ces gens-là, qui sont au cœur du réacteur de l'IA, disent attention. Stop, arrêtons, pause, il faut qu'on fasse un break.
Pendant 6 mois, ils disent, voilà, on fait une pause pendant 6 mois, on arrête tout, toutes les recherches dans le domaine de l'IA, il ne faut pas qu'on aille au-delà de GPT-4 et on réfléchit, voilà. Il faut que les sociétés réfléchissent à l'implication que vont avoir ces nouveaux outils dans nos vies, sur l'économie, sur la démocratie, la diffusion des fake news, sur les dérives potentielles aussi de ces intelligences artificielles. Moi, je dois dire, ça m'a interpellé. Alors, vous savez bien, on est tous très technophiles et on a toujours tendance à voir le verre d'eau à moitié plein.
On est plutôt bienveillants.
Voilà, quand on parle d'IA, nous, on voit tout de suite les gains que ça peut nous apporter dans la vie quotidienne. Mais c'est vrai que là, la portée de cette lettre, elle est quand même importante dans le sens où, comme tu le disais, les gens qui la signent ne sont pas n'importe qui. C'est pas comme les pétitions, tu sais, signées par des artistes sur des sujets de société sur lesquels ils n'ont aucune légitimité.
Oui, oui.
Là, on parle, alors au-delà d'Elon Musk, qui est peut-être, j'allais dire, à la limite le moins légitime, parce que c'est un grand nom, mais c'est pas forcément un expert de l'intelligence artificielle. Mais t'as des chercheurs du MIT, t'as des chercheurs qui ont signé en leur nom propre, qui travaillent chez Meta, dans plein de grandes entreprises, qui sont, comme tu disais, au cœur du réacteur. Pour moi, c'est l'intelligence derrière l'intelligence artificielle. C'est les cerveaux qui travaillent, en fait, qui conçoivent ces algorithmes. Si eux te disent, oula, attention, la technique va vite, elle va trop vite, et c'est pas à nous de jouer les apprentis sorciers, nous, les scientifiques, nous, les ingénieurs. Il va falloir réfléchir en tant que société. Et ben, moi, je me dis, ouais, effectivement, peut-être que ça vaut le coup d'y réfléchir. Alors après, la notion de s'arrêter 6 mois, je trouve ça à la fois c'est presque mignon en fait, parce que c'est dérisoire. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire s'arrêter 6 mois et qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton pause
dans
et 6 mois.
Dans l'échelle des technologies.
Non, mais c'est ça. Tu vois, ça veut pas dire grand-chose. Mais le simple fait de dire il faut qu'on se pose pour réfléchir, je trouve en tout cas que c'est déjà c'est quelque chose d'intéressant.
C'est symbolique. Et je pense que c'est ce qui est bien au final avec cette tribune, c'est qu'elle est pas là pour nous faire peur en racontant que l'intelligence artificielle va tout détruire, qu'on a ouvert la boîte de Pandore. C'est pas le but de cette pétition. On n'est pas sur quelque chose d'anti qui veulent bloquer quelque chose en s'y opposant de manière brutale. On est sur des gens qui disent qu'il faut discuter. Ça implique les gouvernements, ça implique les entreprises. C'est pour ça que la période de 6 mois, elle est suffisamment raisonnable pour ne pas dire qu'on va freiner l'avancée technologique. Mais le but est de discuter de jusqu'où on va aller. Et ce qui est dit là-dedans, moi j'ai trouvé cette partie assez intéressante, c'est que c'est pas de ChatGPT qu'ils ont peur. En soi, ils disent que ChatGPT, oui, c'est très bien, ça fonctionne bien. Et eux sont pour le développement de cette technologie, mais ils ont peur de ce qui arrive après. Et c'est des gens qui savent ce qui arrive après. Et eux pensent que l'intelligence artificielle qui va être injectée dans notre société dans les prochains mois, à la vitesse où on va actuellement, là, elle va être beaucoup plus dangereuse et elle risque de remplacer beaucoup d'emplois brusquement, donc de provoquer des bouleversements sociétaux qui ne seraient pas forcément faciles à aborder.
Donc il faut se préparer à tout ça, parce que de toute façon, cette pause, c'est une pause. On ne pourra pas se dire, allez, vous savez quoi les gars, appuyez sur le bouton reset là, on va arrêter l'IA. C'est pas possible.
Non, surtout, il n'y aura pas de pause. Enfin, non. Vraiment, je pense qu'ils ne sont pas, tu vois...
Ils disent dans cette lettre, nous appelons tous les laboratoires d'IA à suspendre immédiatement l'entraînement...
Ça n'arrivera jamais. Hein.
L'entraînement des systèmes d'IA plus puissants que GPT-4 pour au moins 6 mois.
Ouais, mais non, mais c'est un vœu pieux, évidemment. Et d'autant que quand on parle de régulation ou de cette pause, etc., c'est toujours aussi, tu sais, une éthique à géographie, à géométrie variable. C'est-à-dire, qui va s'arrêter, tu vois, même si tu as quelques laboratoires qui ont de grandes idées, de grands sentiments, qui disent oui, ok, pour des raisons éthiques, on va s'arrêter. Tu crois que les laboratoires en Chine, pour prendre cet exemple parmi d'autres, ils vont évidemment continuer.
Mais qu'est-ce que ça veut dire s'arrêter en plus? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui travaillent là-dessus? Les gars, voilà, allez, vous voyez la table de ping-pong là-bas, faites-vous un tournoi pendant 6 mois.
C'est un peu le sort que va appliquer ChatGPT au reste de la société.
Ça veut rien dire.
Non, ça veut rien dire. Mais si cette tribune a pour conséquence de créer une sorte de réunion de la tech,
de petits électrochocs en disant attendez les gars, on ne sait pas trop où on va.
Exactement.
On va continuer à avancer, mais ayez une éthique et réfléchissez un petit peu aux conséquences que ça peut avoir.
La technologie a toujours eu des conséquences sur la société et sur le monde politique. On dit souvent qu'il ne faut pas mélanger les deux, mais si la technologie et la politique, souvent c'est la même chose, ça amène à des bouleversements. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la technologie va si vite, on le voit, on va en parler des nouveautés de ChatGPT dans quelques instants, quasiment toutes les semaines, il y a des annonces majeures. Ouais. La techno va hyper vite, il y a tellement d'intérêt qu'on a envie d'aller vite là-dessus. Et le risque, c'est qu'au moment où ça sera capable de remplacer plein d'emplois et que des gens vont l'utiliser pour tuer des emplois, ben on fait quoi des gens qui n'ont plus ces emplois? Et je pense que c'est bien d'avoir des débats. J'espère que ces débats seront orchestrés par des personnes intelligentes comme les gens, comme les signataires de cette tribune qui connaissent les sujets. Le risque, c'est que ça tombe entre les mains de on parle du monde politique, hein, mais quand on voit comment le Congrès a traité TikTok, je pense qu'on va aussi en parler tout à l'heure, parfois les représentants politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux technologiques. Le risque, c'est ça, c'est qu'on se retrouve finalement avec un débat qui tombe entre les mauvaises mains, qui ne va pas dans le bon sens et qui provoque dans 5-10 ans une vraie catastrophe sociétale. Mais donc c'est bien que les experts se prononcent sur le sujet dès maintenant.
Mais c'est vrai que ces questions, il faut se les poser parce qu'on commence aussi à avoir une idée un peu plus précise justement des conséquences que va avoir l'arrivée de ces intelligences artificielles.
Vous avez lu l'étude de Goldman Sachs?
Oui, alors absolument, je voulais en venir à ça, effectivement, l'étude de Goldman Sachs sur les conséquences sur l'emploi. Alors, c'est toujours des évaluations au doigt mouillé.
C'est un peu au doigt mouillé.
Ça dépend de ce que pourra faire la technologie. Voilà.
Mais bon, Goldman Sachs,
c'est pas des super rigolos. Non, mais évidemment. Enfin, puis surtout, ça donne des tendances. On va dire, voilà, c'est pas. Ils disent 300 millions d'emplois qui vont être supprimés. Enfin, personne ne sait si ce sera 200 millions ou si ce sera 500 millions, franchement. Mais ça dit déjà quels secteurs seront concernés, quels gains de productivité. En gros, la question qu'on va se poser sur la partie économique, pour moi, c'est est-ce que c'est être humain augmenter ou être humain remplacé. En gros, c'est ça. Est-ce qu'on va être capable de se servir de ces outils pour améliorer notre productivité? On parlait la semaine dernière de Copilot, par exemple, intégré dans Microsoft, qui va complètement exploser la productivité de la vie de bureau en te faisant des résumés de la visioconférence à laquelle tu n'as pas participé, en t'aidant à faire des PowerPoint hyper rapidement, etc. Et quels métiers vont être complètement remplacés par l'IA? Et il y en aura. Et quels métiers seront créés aussi par l'IA? Là, la grande tendance, là, vous avez vu, le nouveau métier qui monte, c'est prompt engineer. Tout le monde parle de ça. Là, c'est les prompts, c'est ceux qui...
Savoir dialoguer, en fait, avec l'IA.
Exactement. ça. Je voyais une formule qui était très juste, je ne sais plus qui sur Twitter, il me pardonnera, du coup je ne le cite pas, il disait le nouveau langage de programmation, c'est l'anglais ou le français. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est plus un langage de programmation informatique, c'est en gros celui qui va être capable de manier le français ou l'anglais de telle manière qu'il va tirer la substantifique moelle de ChatGPT ou de Midjourney. Et ça, c'est un vrai talent.
Ouais, c'est un vrai talent qui s'apprend, comme on a appris, alors dans une moindre mesure sans doute, à se servir des moteurs de recherche au départ. Hein. C'est vrai qu'on a, on a tous appris à se servir des moteurs de recherche pour avoir, on va dire, des résultats plus pertinents. Ouais. De la même manière, de manière plus complexe, je pense quand même aussi, ce qu'on appelle les prompts.
Ouais. Hein,
dialoguer avec cette IA pour qu'elle vous sorte la substantifique moelle, ce dont vous cherchez, c'est ça qui est fou. Hein.
Exactement.
Et alors, bon, donc, il y a cette lettre. Ce qui est intéressant, c'est que la conclusion de cette lettre est assez intéressante. Si une telle pause ne peut pas être décrétée rapidement, les gouvernements devraient intervenir et décréter un moratoire.
Ouais. Alors, ce qui est risqué. Enfin, vous revenir à ce qu'on disait. Dans un instant.
C'est ça. Mais est-ce que vous avez remarqué le silence des gouvernements sur ce sujet? C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de réaction, alors qu'on sait que l'éducation va être impactée. On sait que, évidemment, tous les secteurs vont être impactés par ce truc-là.
Sans faire de politique, mais si vous voulez, là, ça fait quoi, un mois que l'actu est trusté par la réforme des retraites.
Et tout le reste est occulté.
Tout le reste est occulté. Non, franchement,
même
si
ailleurs,
on voulait mettre.
On pourrait dire pareil aux États-Unis.
Oui, bien sûr. Non, exactement. Non, mais dans les autres pays, mais c'est pour prendre cet exemple-là. Si on voulait faire la vraie actu qui compte d'un point de vue économique aujourd'hui, on parlerait tous les jours de ChatGPT. Hein.
Oui,
c'est
évident. Ce qui est savoureux dans
l'histoire. Pourrait être étroitement en retraite.
Non, mais complètement, c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui est savoureux. C'est effectivement, en prenant à bras le corps ce problème d'IA, qu'on aura peut-être moins de problèmes de retraite parce que ça va tout changer.
Hein. Ou plus de problèmes. Enfin, ça va dans les deux sens. Mais c'est vrai qu'on a une vision très court-termiste, moyen-termiste sur certains sujets, sans justement réfléchir à des choses qui existent parallèlement et qui mériteraient des auditions. Là, voilà, j'ai l'impression que le monde politique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, est très axé sur TikTok aujourd'hui, ce qui est un sujet intéressant, en particulier par rapport à la montée en puissance des technologies chinoises dans nos sociétés occidentales. Mais la réalité, c'est que oui, il faudrait parler des intelligences artificielles, que c'est un sujet primordial, que c'est un sujet dont on va parler pendant plusieurs années. Et c'est dommage de voir personne s'en saisir. Après, quand on voit que les rares prises de décision politiques en France sur l'IA, c'est de l'interdiction, ça ne va pas forcément dans le bon sens non plus.
C'est clair.
C'est
un manque de connaissances. Enfin, je veux dire, on n'a pas non plus des politiques qui sont, en moyenne, encore une fois, hein, mais très technophiles ou très connaisseuses de ces mondes-là, de ces univers-là. Donc forcément, c'est...
Oui, mais on a pas mal d'intellectuels qui sont... Ou des gens qui sont dans ce domaine-là, qui se rendent compte, en fait, de la vague, du tsunami qui nous arrive sur la figure.
Ouais, enfin bon, ils sont quand même à l'ouest. Moi, je me souviens des auditions, c'était un autre domaine, mais c'était sur les cryptos, quoi, où tu voyais les questions que posaient, je ne sais plus si c'était les députés ou les sénateurs, justement pour réguler les cryptos en France et en Europe, mais t'hallucines en fait du niveau. Mais c'est même pas de la méconnaissance, mais c'est presque de la bêtise à ce niveau-là, quoi, d'être
aussi informé. Je
fais une généralité, évidemment, il y a des exceptions.
Il y en a quelques-uns qui sont vraiment très compétents.
Après, pour prendre un peu leur défense, mais un tout petit peu leur défense, c'est vrai qu'il y a tellement de sujets évoqués. Il y a tellement de sujets aujourd'hui on est au gouvernement.
La question, je me souviens juste de ça sur les cryptos, c'était qui est le patron du Bitcoin, tu sais, c'est en gros, t'avais une question, c'était genre mais qui dirige tout ça,
mais qui dirige tout,
c'est qui, Jean-Michel Bitcoin,
alors que tout le monde sait que c'est Elon Musk,
voilà, exactement
qui est
Satoshi Nakamoto, c'est la figure cachée, évidemment.
Alors bon, il y a cette lettre, d'accord, mais après il y a tout ce qui on commence à voir vraiment, on a touché les dérives en fait de ChatGPT.
Alors c'est intéressant parce que j'allais dire, il y a les deux choses se télescopent. C'est-à-dire que tu as cette lettre, cette tribune donc d'Elon Musk et des 1100 chercheurs, et tu as un rapport, alors qui a passé un petit peu plus inaperçu, mais que j'ai trouvé très intéressant, d'Europol, donc l'agence de police européenne, sur les dérives potentielles de ChatGPT et le fait que l'outil soit de plus en plus utilisé par les criminels aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, le potentiel que ça représente en termes de criminalité, ça c'est un vrai risque de dérive, et ça aussi il faut y réfléchir. Et il donne un certain nombre d'exemples qui font quand même froid dans le dos. Alors, ça part de choses, j'allais dire, assez basiques, c'est-à-dire se servir de ChatGPT pour, j'allais dire, c'est la criminalité pour les nuls, quoi. C'est genre pour t'informer, alors que tu n'as pas forcément de connaissances préalables sur comment faire de la drogue, fabriquer une bombe, entrer par effraction chez les gens, et tu vas avoir un tuto quasiment pas à pas.
Parfait, ouais.
C'est génial, vraiment le truc.
Non,
alors normalement,
ça
ouvrir la porte, poser la bombe sur la droite.
Mais c'est pas loin d'être ça.
Mais mais c'est ça.
À côté de la bouteille de gaz.
Normalement, ChatGPT refuse de répondre à ces questions, mais on sait qu'il y a des moyens quand même de contourner tout ça. Et vous allez me dire, oui, mais ces infos, on les avait déjà sur Internet. Oui, mais là, tu vas les avoir sous une forme.
Oui, oui, tu les as sur un plateau.
Ouais, c'est ça. On te les sert sur un plateau. Donc il y a ça. Deuxième élément, c'était pour tout ce qui est cyberarnaque, cybercriminalité. Donc exemple, le phishing. Les mails de phishing, mais alors pas avec des fautes de syntaxe dans tous les sens et des machins. Là, ça va être un truc qui va imiter, va imiter le style particulier d'une institution ou d'une entreprise.
Il n'y aura plus de loterie Bill Gates, parce que moi, j'ai tellement joué à cette loterie.
Oui, c'est vrai. T'as jamais gagné
Bill Gates. Non, c'est j'ai beaucoup perdu.
Bon, on m'a dit... Moi aussi. Non mais voilà, on va te dire, voilà, c'est votre banque, c'est votre opérateur, on va trouver le ton précis pour te convaincre de payer, pas trop intimidant, pas trop menaçant, mais voilà, on va trouver exactement ça, ChatGPT va être capable de le faire. Ça va être aussi pour la cybercriminalité, le fait que ChatGPT puisse tout simplement écrire du code, et donc écrire aussi du code malveillant, hein, tout
sûr.
Simplement.
Moi, je trouve que c'est limite là où c'est le plus flippant, parce que voilà, on dit un tuto, comment créer un explosif, etc. Ça reste quand même manuel et technique. Là, en l'occurrence, sur un piratage informatique, si on a une version de jailbreakée de ChatGPT, des gens non développés, on peut lui soumettre un code ou on peut lui soumettre un compte en lui demandant d'essayer de trouver les failles, et il va lui-même faire les opérations. Donc là, on rentre sur quelque chose qui est beaucoup plus dark. Hein, donc c'est évident que...
Et ceux qui croient qu'on ne peut pas péter les garde-fous de ChatGPT, ben, se mettre le doigt dans l'œil.
Non, mais il y a des versions
dans le numérique.
Exactement, c'est ce que tu dis. Et d'ailleurs, le rapport d'Europol note aussi ça. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur la régulation et, j'allais dire, la vacuité de la régulation ou l'idée de réguler, parce que de toute façon, il y aura des versions, effectivement, pirates, clandestines de GPT ou de GPT-like qu'on pourra retrouver éventuellement sur le dark web, sur des sites qui sont complètement non régulés et où on pourra faire absolument faire ce qu'on veut sans aucun filtre. Donc voilà. Encore une fois, comme je le dis à chaque émission, on n'arrête pas la marée avec une serpillière. Et là, on ne l'arrêtera pas, c'est clair. Hein.
On n'arrête pas la marée avec une serpillière.
Une belle citation. Ça pourrait être le titre de cette vidéo.
Ouais, je pense qu'on pourrait la titrer comme ça. Je ne sais pas si j'aurai au moins un clic. Mais bon, on pourrait essayer en tout cas. Peut-être les marins pourraient la regarder en disant, bah, tiens, c'est quoi ce titre à la con
Ou les serpilleurs.
ou les serpilleurs, bien sûr. Alors, juste pour revenir sur ChatGPT, ce qu'on reprochait beaucoup à ChatGPT, c'est que après fin 2021, il était totalement aveugle et il ne savait pas trop que Avatar numéro 2 était sorti. Enfin, on a eu des histoires rigolotes, on s'en souvient avec Anthony, on en avait parlé. Et là, depuis quelques temps, il existe un petit plugin qui permet de donner, d'ouvrir la lumière de ChatGPT sur, en fait, l'instant présent, c'est ça.
Exactement. On a ChatGPT qui est connecté à Internet et qui peut donc réaliser répondre à des requêtes qui sont liées à l'actualité. Ce qui était déjà le cas avec Bing. Hein, oui, si vous utilisez Bing, donc avec GPT-4 intégré, vous pouvez lui faire des demandes.
Oui, des requêtes récentes. Enfin,
mais là où c'est hyper intéressant, donc c'est au-delà du côté des requêtes qui sont liées à l'actualité, c'est qu'on va pouvoir, et ça a été aussi annoncé cette semaine, intégrer des plugins, des extensions. Donc, pour le coup, pour pouvoir faire des demandes spécifiques, par exemple, pour réserver une chambre d'hôtel, une table de restaurant. Et, par exemple, Expedia va avoir son petit plugin, donc tu pourras réserver un vol directement par ChatGPT. Donc, tu peux lui faire une demande hyper spécifique. Je veux aller à New York tel jour, dormir à tel hôtel ou dans telle zone parce que j'ai une réunion le lendemain à telle heure, etc. Manger tel truc. Et il va te faire, en fait, via les différents plugins, toutes les réservations dont tu as besoin. Ou en tout cas, te faire un truc sur le site d'Expedia, te proposer
un carnet de voyage, quoi, en quelque sorte.
Et t'as plus qu'à cliquer, à payer, et c'est terminé. Donc ça va être extraordinaire, pour le coup.
Oui. Ça, c'est chaud. Hein.
Ouais. Oh. Et d'autant plus, moi, c'est ce que j'admire beaucoup dans le travail d'OpenAI, c'est que contrairement à Microsoft, tu l'as dit, qui a directement ouvert son agent conversationnel à Internet, et ça a donné des choses assez dingues. J'ai plein d'articles sur Numérama où je raconte comment Bing m'a insulté. Et je me suis fait insulter par Bing des dizaines et des dizaines de fois.
Et il paraît que tu as particulièrement apprécié. Ah, je ne sais pas pourquoi.
C'était très amusant.
Mais tu l'as cherché un peu, non? Où vraiment il est.
Franchement,
non, je le connais.
Ça sortait de nulle part.
Il y
avait des moqueries. Il m'a fait croire qu'il était humain. Il m'a juré qu'il était humain et que non, il n'était pas une IA.
Oui,
il a dit qu'il avait peur de mourir et qu'il voulait que je le sauve. Mais... C'est parti, mais vraiment, dans tous les sens, ce truc. Ça, là...
Mais je pense que tu prenais quand même un malin plaisir à le trifouiller, à le relancer, bien sûr.
Je m'amusais.
Avec ce petit rictus qu'il a là, tu sais, en disant ah ouais, d'accord.
Après, je me suis jamais fait insulter par ChatGPT. Donc, il y en a un qui est plus respectueux que l'autre, pardon. Mais en tout cas, voilà.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire-là?
Je pense que le problème de Bing, notamment à sa connexion Internet, c'est qu'il est capable de gagner beaucoup trop de données au fur et à mesure des conversations. Donc, automatiquement de modifier son paramétrage pour avoir une personnalité qui justement absorbe les conversations précédentes, et que c'est ce qui l'a fait vriller au début, c'est qu'il était beaucoup trop à l'aise avec les gens, c'est-à-dire que si on lui parlait de manière un peu trop gentille, si on lui demandait de parler d'un sujet un peu rigolo, bah, il décidait de se prendre pour un clown et qu'il décidait de répondre en faisant n'importe quoi.
Ouais,
complètement. Non, mais de toute façon, Microsoft elle a bridé, hein. Ils ont complètement tout coupé, à un moment ils disaient plus rien et là ils l'ont un petit peu enfermé dans un personnage. Ce que j'aime bien avec OpenAI, c'est que même là, quand on dit qu'ils ouvrent ChatGPT à Internet, c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'ils ont fait des partenariats avec des entreprises pour se connecter à Internet sur des sites dédiés. On a parlé d'Expedia, il y a The Fork pour les réservations de restaurants, mais c'est pas non plus
ChatGPT
qui accède à n'importe quel site, y compris des sites mensongers qui lui diraient de se faire passer pour une personnalité extrême droite, extrême gauche, peu importe. Il est là pour encadrer complètement ce qu'il dit. Et c'est ce que j'aime bien en fait dans leur démarche, c'est qu'ils vont vraiment prudemment à chaque fois. C'est très serviciel, mais surtout, je ne peux pas m'empêcher d'y voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Google Duplex qui avait été annoncé il y a quelques années, qui était soi-disant cette intégration à Google Assistant qui pouvait vous faire une réservation complète dans un pays, hôtel, avion, restaurant, etc., en allant sur des sites et à travers ses propres recherches, en comprenant lui-même comment fonctionne chaque site. Je suis à peu près convaincu que quand OpenAI fait ça avec 10 partenaires, le but est d'entraîner ChatGPT à faire lui-même des démarches de réservation sur des sites qui sont déjà préétablis comme compatibles, pour qu'un jour, il puisse faire ça sur n'importe quel site. Vous lui donnez le site de votre ville en lui demandant de faire une demande de renouvellement de carte d'identité, il se débrouille et il le fait. Et c'est justement en lui apprenant petit à petit qu'on va faire un outil qui est hyper fort dès son lancement, le jour où il arrivera. Et c'est là où ils sont forts, c'est qu'ils ont une approche qui est hyper progressive, qui fait que le truc, on a l'impression qu'il s'enrichit toutes les semaines, alors que Bing est allé beaucoup trop vite et qu'ils se sont brûlés les ailes comme ça.
Mais on en parlait avec Anthony, c'est vrai que Bing et Microsoft n'avaient rien à perdre.
Oui, finalement, ils étaient en challenger, donc forcément, ils
ont
dit, vas-y.
De personnes qui recherchent sur Bing, ils se sont dit, bon,
oui,
voilà,
de ce point de vue-là, ils ont bien
fait. On fera un peu de mal à Google, ça.
Moi,
c'est certain.
Je pense qu'ils ont fait du mal, à ChatGPT. Indirectement.
C'est temporaire, mais au moment
où Microsoft annonce Bing, on est vraiment sur un pic en termes d'annonces. Les médias généralistes en parlent. Je me rappelle, j'étais dans le sud à Nice à ce moment-là, et c'était la une de Nice Matin. Ils parlaient de l'intelligence artificielle.
Incroyable.
Ils expliquaient, Nice Matin expliquait. Enfin, je me rappelle, j'ai une discussion avec mon oncle. J'avais trouvé ça hallucinant que mon oncle, qui s'intéresse pas du tout aux nouvelles technologies, me parle de ChatGPT comme si c'était un expert parce qu'il avait lu justement le journal régional. Et le moment où Microsoft annonce ça, en une semaine, ça retombe et ça passe en critique, en mode il faut débrancher Bing. Il y avait eu des appels d'Elon Musk qui disaient il faut tout couper maintenant, c'est dangereux. Bon, Elon Musk n'aime pas ChatGPT pour des raisons personnelles, donc ça se justifie par ça. Mais pour moi, ils ont fait du mal quand même à l'ensemble du mouvement intelligence artificielle avec leur Bing un peu trop rapide.
Ouais. Moi, je pense que ça, ce sera vite oublié.
Oui, c'est vite oublié.
Les craintes autour de l'IA, par contre, ça c'est clair. Je pense que ça dépasse largement le fait que l'IA hallucine et commence à insulter les gens, parce que ça va se corriger, je pense, assez rapidement.
Ouais. Non, en fait, la menace première, c'est la tromperie, et c'est le fait que nous, on ne sache plus, en fait, à qui on s'adresse.
Oui, c'est vrai.
Finalement,
absolument.
C'est ça.
On va en parler avec les applications de dating.
On va y aller tout de suite, mais c'est vrai que c'est la principale menace. Ouais. Le fait de se dire, est-ce que je parle à Anthony, parce que demain, on peut très bien imaginer, je ne sais pas, nous, on est des personnes qui sont médiatisées, en quelque sorte. Il nous arrive de répondre à des auditeurs, etc., etc., qui te dit que demain, il n'y aura pas une interface qui nous permettra, parce que ChatGPT, c'est à peu près ce qu'on est, ce qu'on pense, etc., de répondre à notre place.
Il y a
plein de trucs.
Mais surtout parce que c'est...
Bien sûr.
On peut lui demander de se faire passer pour toi dans un prochain échange de conversation, et il va le faire. Hein.
Non, mais c'est clair.
Et surtout, c'est une des briques de la tromperie, parce que tu couples ça, t'as Midjourney, on a vu là, les deepfakes qui circulaient, qui sont absolument incroyables. Ouais, ouais. Tu vois Donald Trump qui se fait arrêter, qui essaye de s'enfuir. Franchement, moi, il y a plusieurs fois où je me suis fait avoir en fait par les images. Ouais. Enfin, une demi-seconde, parce qu'avant, tu dis, c'est tellement what the fuck, j'ai vérifié. Oui, c'est vrai. Mais il y en a plein maintenant de vrai ou faux, tu sais, où les mecs te mettent une vraie photo et une fausse, et tu dois deviner laquelle est la vraie. Enfin, c'est impossible. Enfin, vraiment, moi, j'avoue, je n'arrive plus à faire la différence. Et il y a plein de moments où je me suis presque fait avoir en me disant, attends, mais ça s'est vraiment passé, ça? Alors après, tu vérifies, nous c'est un peu notre boulot, donc il y a une déformation professionnelle, je ne sais pas dans quelle mesure la grande majorité de la population va aller vérifier un truc quand il a un doute, mais en tout cas c'est ce qu'il faut faire, c'est la démarche saine évidemment, mais clairement on n'a encore rien vu. On a fait la semaine dernière, où il y a 15 jours, l'IA qui est capable de synthétiser ta voix et de limiter. Mmh. C'était très spectaculaire, les résultats, on l'a fait.
C'est impressionnant,
avec c'est impressionnant. Donc, t'as ça. T'as
J'avais Donald fake. Trump qui écoutait De quoi je me mêle.
Ouais, qui nous a dit j'adore De quoi je me mêle et François Sorel.
Ça m'étonne pas. C'est quelqu'un qui a du goût en podcast, surtout. Hein, le
ça,
reste,
c'est vrai.
Je sais pas.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que ChatGPT, c'est un des éléments, en fait, de cette notion que la différence entre le vrai et le faux va devenir de plus en plus floue et de plus en plus compliquée.
Ça va l'accentuer, en tout cas.
Ouais.
Ça va l'accentuer.
Et alors, voilà, justement, jusqu'où on peut aller ? Eh bien, il existe maintenant, en bêta, l'appli CupidBot. Et alors ça, c'est drôle quand même, parce que pour tous ceux qui sont un peu seuls, mais qui n'ont pas franchement envie de draguer, parce que ils sont un peu flemmards, etc. Hop là, tu mets l'IA de là-dedans et t'attends, en fait, c'est ça ? Comment ça marche ?
C'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'est un outil, alors qui est, ouais, t'as raison de dire que c'est en bêta, hein, parce que pour l'instant, vraiment, il y a quelques personnes qui ont pu le tester visiblement, que tu vas greffer à ton profil Tinder, et en fait, cet outil va jouer le jeu de la séduction
la
à ta place.
C'est surréaliste.
Mais oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment c'est le dernier truc qu'on pensait pouvoir déléguer à l'IA, c'était peut-être ça quand même, séduction. Et non, en fait, cette IA, elle va aller, alors déjà, détecter les profils qui potentiellement peuvent te plaire en fonction des profils que tu avais déjà swipés, etc. Et puis, à partir de là, engager la discussion. Alors, peut-être avec 10 profils à la fois, c'est aussi ça la beauté du truc.
L'avantage.
C'est que tu industrialises la drague, en fait, quoi, si tu veux. C'est que tu vas balancer les phrases d'accroche, tu vas répondre. Alors, évidemment, elle répond avec, un petit poème personnalisé, un petit truc. Voilà, tu as toute la tchatch de ChatGPT que n'ont pas forcément le commun des mortels. Alors après, le truc, c'est qu'une fois que tu as la rencontre IRL, c'est plus compliqué. Quoi, parce que
c'est plus ChatGPT qui fait le travail. Hein.
Ouais. Quand tu avais un vrai date...
Il faudrait une oreillette un peu façon Her.
Ah oui, c'est pas mal. Phoenix. T'as raison.
Ça pourrait être l'étape finale.
Et puis peut-être qu'il a dit que Nico était commandant de bord, ChatGPT. Puis après,
c'est vrai qu'il faut bien réviser.
C'est clair.
Alors comme ça, t'es commandant de bord. Chez Numérama, c'est un nouvel avion.
C'était bien.
C'est drôle.
T'es 8 ans d'expatriation au Vietnam, ça s'est bien passé.
Mais d'ailleurs, si vous trouvez ça drôle, il y a un épisode de South Park sur ChatGPT qui est dispo sur Paramount+. Je fais de la promo à Paramount+ dans cette émission. J'avais pas pensé faire ça aujourd'hui.
Mais attends, tu sais quoi ? Moi, je peux t'aider parce que Paramount+, il y a des super trucs.
Ah, moi, je trouve que
il y a notamment une série avec Stallone.
Il y a Canal en plus, c'est très bien.
Voilà, une série qui est avec Stallone, Cold Hiking, excellente. Enfin, il y a tout. Il y a les Yellowstone.
Ils ont l'émission Impossible. Bon, bref, on peut avoir Paramount+, c'est bien. Mais ils ont sorti un épisode de South Park où on voit justement. Je trouve qu'il est génial, il illustre parfaitement toutes les dérives possibles de ChatGPT. Donc ça va de la drague pour plaire à sa copine, à tricher à l'école, le prof qui corrige les copies avec ChatGPT. Enfin, c'est vraiment ça part dans tous les sens, c'est vraiment réussi. Et là, on voit derrière toi François Inge, qui est une application dont j'ai rencontré le fondateur il y a quelques jours à Paris, qui s'appelle Justin McLeod. Je ne sais pas si vous connaissez Inge tous les deux. C'est dans le même groupe que Tinder. Et en gros, il revendique le fait d'être le Tinder des relations sérieuses. Et tout est fait justement pour éviter les swipes, pour le fait qu'on s'intéresse à quelque chose chez quelqu'un et pas à la personne, à son physique. C'est une application intéressante, mais c'est pas de ça dont je vais parler ici. En fin d'interview, j'ai eu justement un bout de discussion avec Justin McLeod, très intéressant, sur ChatGPT. Lui, il m'a dit une phrase que j'ai trouvée assez géniale, qui est « J'ai jamais cru aux crypto-monnaies ou aux métavers, c'est de l'arnaque. Par contre, ça va tout changer. » Et lui me disait qu'il avait pas mal d'idées, notamment la création d'un majordome qui pourrait être intégré à l'abonnement payant de Inge, qui permettrait en fait à la fois, comme ce que tu racontais, de reconnaître des profils avec qui ça peut matcher, d'avoir des retours après un date, de demander à la personne alors comment ça s'est passé, est-ce que tu as l'impression qu'elle n'était pas bien sur telle phrase, ok, tu aurais dû faire ça autrement, la prochaine fois propose-lui de faire ça.
Le médiateur des rencontres, un médiateur coach.
C'est un médiateur. Le but, c'est pas de faire à votre place, mais vous êtes bloqué dans une conversation, vous savez pas quoi relancer, l'IA pourrait dire, à ce moment-là, ça pourrait être bien de lui répondre ça. L'idée, c'est d'avoir une IA qui rassurait les personnes, justement, en quête de rencontre. Et ça s'intégrerait, dans le modèle du groupe match. Il me donnait un chiffre que j'ai trouvé hyper intéressant. Les gens qui ont un abonnement payant sur les applications Inge, Tinder, donc de rencontres du groupe match, vont à 4 fois plus de dates que les gens qui ont un compte gratuit. C'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
Donc en fait, ça a boosté à une IA.
Ça prouve en tout cas le modèle économique de ces applis aussi.
Ça justifie pourquoi en fait ils arrivent à vendre des abonnements à 50 balles par mois.
Ouais. Comment ChatGPT pourrait se débrouiller si malencontreusement vous dites que vous changez de chaussettes une fois par semaine Il a du mal à sortir les rames.
Il ment pour toi. Il peut aussi mentir pour toi.
Non, c'est pas une bonne idée.
Sans même parler de CupidBot ou quoi, mais il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent ChatGPT maintenant pour optimiser leur profil Tinder, pour écrire le profil parfait, pour écrire, trouver la bonne phrase d'accroche, demander d'écrire un petit poème personnalisé, etc. Mais après, le truc, c'est qu'effectivement, quand t'as le vrai date, t'avais toujours cette notion de... Parfois, tu as l'impression d'avoir été trompé sur la marchandise quand tu vois la personne par rapport à la photo de profil. Là, tu pourrais avoir l'impression d'être trompé sur la marchandise entre le Casanova du clavier et puis le mec qui a rien à dire dans la vie réelle. Tu vois, c'est vraiment
le Casanova du clavier.
la double tromperie.
Non, mais c'est vrai. C'est comme quand tu triches en bac blanc et que les preuves arrivent.
Je dis ça de connaître. Ça sent vécu, ça.
Exactement.
Je vous propose de nous figer sur le Casanova du clavier. Pour terminer cette première partie de quoi je me mail, Anthony, Nicolas, vous ne bougez pas, on revient dans un instant pour la suite. Et notre deuxième partie de quoi je me mail va commencer par le fameux masque AR-VR d'Apple. Visiblement, petit à petit, toutes les planètes s'alignent. On a eu des infos très récentes là, on en parle dans un instant. Vous êtes à la radio, à la télé, vous touchez rien. Si vous êtes sur YouTube par exemple, ben là il va falloir cliquer sur le deuxième module de quoi je me mail. Et tiens, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit like.
Hein, un petit pouce vers le haut.
Un petit pouce vers le haut comme ça. Allez, à tout de suite, merci.
De quoi je me mail sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mail. François Sorel.
Voilà la deuxième partie de votre De quoi je mêle. On est là tous les week-ends, vous le savez, sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur YouTube, sur la chaîne Tech & Co, bref, un peu partout, en audio, en vidéo, avec Nicolas Lelouch qui est avec nous.
Salut François.
Pour ce De quoi je me mêle. Et puis Anthony Morel, bien évidemment.
Salut les amis.
Deuxième partie, après avoir parlé longuement de l'IA, je vous invite maintenant, pour ce deuxième chapitre de quoi je me mail, eh bien de revenir sur ce qui est en train de se tramer chez Apple, non sans douleur visiblement et larmes. Hein, ça a l'air compliqué cette histoire. Vous savez que on en a déjà parlé ici. Apple travaillerait sur un masque de réalité augmentée, enfin de réalité mixte, hein, c'est-à-dire qu'on aurait les deux technologies. L'actualité, c'est que voilà, tout ça semble se caler. Anthony, Nico, qui veut commencer là-dessus ? Parce que, en plus, l'actu toute fraîche, c'est qu'on connaît la date de la prochaine WWDC.
Oui, donc, par la même occasion, probablement la date d'annonce du casque. Hein, ça fait 3-4 ans qu'on en parle, 3-4 ans qu'il y a des rumeurs comme quoi ça va être annoncé cette année. Je pense que c'est la première fois qu'à 3 mois de son annonce, à peu près toutes les sources fiables s'accordent sur le fait que ça sera la WWDC. Donc la date, ça serait le 5 juin. C'est la date de la prochaine grande conférence d'Apple. Et en effet, il y a ce casque de réalité mixte qui intrigue autant qu'il inquiète. C'est un petit peu le sentiment qu'on a avec ce produit. J'ai envie de dire que ce n'est pas forcément mauvais signe. Hein. Tous les nouveaux produits, l'Apple Watch avant son lancement, tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'il va faire avec lui, ça peut fonctionner. Au final, c'est devenu
même
un
l'iPad,
carton.
Hein, L'iPad au début, l'iPad, était assez décrié. Enfin,
l'iPad, c'était très dur de comprendre à quoi ça servait. On le voyait comme un grand iPhone et il n'y avait pas forcément d'intérêt pour beaucoup. Donc, faut pas forcément voir justement cette inquiétude comme le signe que Apple est sur le point de faire une erreur. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a rarement eu autant de scepticisme au sein des rangs d'Apple. Il y a eu un article du New York Times cette semaine qui a pu avoir accès à pas mal. Je crois qu'ils ont eu accès à 8 employés d'Apple qui ont accès au casque, qui le connaissent.
Enfin, 8 ex-employés d'Apple maintenant. Hein.
8 c'est 8 employés et ex-employés. Il y en a aussi des anciens là-dedans.
Parce qu'il y en a qui sont partis du projet en plus. Hein.
Ouais, c'est déjà. A priori.
Bon, après, ça, c'est la vie d'une entreprise.
Déjà, ce qu'on apprend, c'est que le projet, il y a eu plein de gens qui sont partis, que le départ de Jonathan Ive, il a eu un gros impact sur le projet. Le premier, c'est qu'à l'époque, ça devait être un casque autonome, c'est-à-dire juste on le portait, ça suffisait. Mm-hmm. A priori, ce qui va sortir, c'est pas un casque autonome, hein, c'est un casque relié à un boîtier qu'on devra mettre dans sa poche ou à la ceinture qui va s'occuper de la puissance, de la batterie.
Et la batterie serait déportée et serait accrochée en fait à la ceinture.
C'est pas très Apple, quoi.
Ce qui est pas très Apple, mais,
ouais, mais ça permettrait peut-être un peu de confort. Légèreté.
Exactement. Je pense que l'intérêt, c'est si ça te permet de faire du sport sur Apple Fitness Plus, parce que du coup, le truc est léger sur la tête. C'est un intérêt. Maintenant, la gène 1, ok, il faudra pas faire ça en gène 2. Hein.
C'est ça.
Là-dessus, il va falloir trouver une solution. Ils ont le droit de lancer un truc qui n'est pas encore miniaturisé, mais c'est quand même assez étonnant comme produit. Bon, en tout cas, il y a eu plein de débats là-dessus. Et ce que nous dit le New York Times, c'est que autant quand le casque a été montré pour la première fois il y a quelques années au top 100, le top 100 c'est le groupe de leaders d'Apple les plus puissants, tout le monde était hyper emballé. Et là aujourd'hui, tout le monde regarde le produit qui est pourtant fini en se disant dans quoi on se lance. Ils ont du mal à comprendre en fait comment ce truc peut devenir un hit. Il y a un chiffre qui est un nombre qui est donné par le New York Times qui pour moi est assez édifiant, qui est qu'Apple s'attend au max à 500 000 pièces vendues sur cette première année. En comparaison, les iPhones, c'est des centaines de millions quasiment. Enfin, on s'approche de millions facilement. Donc, c'est quand même hyper étonnant de voir Apple bloquer justement là-dessus à quelques semaines de l'annonce d'un produit.
Avec une stratégie qui serait peut-être un peu différente. Alors, ce que disait aussi la presse américaine, qui avait l'air assez bien renseignée, c'est que la stratégie, alors peut-être par dépit, parce qu'effectivement, on est très très loin du potentiel de vente d'un iPhone ou d'un iPad, ce serait d'avoir une stratégie un peu à la Apple Watch, c'est-à-dire où la première génération de la montre, finalement, c'était pas tellement vendu, enfin, c'était des chiffres relativement modestes, parce que aussi la première génération de montre ne faisait pas grand-chose, mais qu'au fil des années et des évolutions technologiques, on a ajouté des briques technologiques, notamment liées à la santé, qui ont augmenté son intérêt et qui ont fait que c'est devenu un produit, sinon mainstream, au moins beaucoup plus vendu. Et là, même chose, c'est exactement ce que tu disais sur la génération 1, on pourra peut-être accepter quelques défauts de conception, de design, etc. Mais sur la génération 2, effectivement, si elle est plus légère, si elle répond, s'il y a des killer apps aussi, et ça va être très très important d'embarquer les développeurs dans cette aventure et pour qu'ils nous expliquent en gros à quoi ça va servir ce casque, parce que c'est ça aussi le truc, et ben là il y aura peut-être du potentiel. Mais c'est vrai qu'on part pas avec le potentiel qu'on avait chez au début pour les iPhones. Et alors moi j'ai appris, petite parenthèse, parce qu'il y avait des trucs très très intéressants là dans cet article. Il y avait New York Times et Financial Times qui ont sorti, et Bloomberg aussi qui ont tous sorti là-dessus. C'est les petites réunions en catimini où ils présentaient le casque à quelques personnes. Tu sais comment ils appellent ça ? Les réunions Fight Club.
Ouais, en interne,
parce que la règle du Fight Club, la première règle, c'est que tu ne parles pas du Fight Club. Et je pense que les salariés d'Apple auxquels on montrait le casque, il valait mieux pas parler du casque. Tu vois, les réunions Fight Club, j'aime beaucoup.
Mais ça existe pour tous les nouvelles gammes de produits chez Apple. Hein.
Oui.
Je crois que c'est le top 100 du management qui, à un moment précis, se réunit en tout.
Alors, c'est tout ça, les réunions Fight Club.
En toute confiance.
Et ensuite, c'est à 3-4 personnes. Voilà, c'est des gens qui bossent sur iOS. On va leur dire, voilà, on te montre le produit pour voir comment tu peux bosser toi aussi de tes côtés sur des intégrations. C'est aussi le fonctionnement d'Apple qui est comme ça, qui est que quand on bosse sur un projet, on n'a pas accès aux autres. C'est pas parce que on est responsable du développement d'iOS que on connaît le design du prochain Mac. Et
bien sûr.
Donc, sur le casque, c'est un projet vraiment secret. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes à l'Apple Park qui ne savent pas ce qui sera montré le 5 juin.
C'est clair.
Mais bon. Quand tu as le top 100, ça veut dire quand même que le produit est ready for prime time, donc prêt à être présenté pour le grand public.
En tout cas, moi perso, j'ai pas envie de bouder mon plaisir. Parce que je me dis, Apple se lance dans une nouvelle aventure. Bon, déjà, il faut avoir le courage de le faire, même si Apple...
Surtout la VR.
Tous les indicateurs sont au vert, etc. Franchement, connaissant l'exigence d'Apple et la qualité de leurs produits, on va se prendre une claque dans la figure.
Oui, c'est certain.
C'est certain. Et voilà, donc ne boudons pas notre plaisir, on va voir ce que ça donne. Évidemment, ça ne sera pas parfait. Évidemment, on annonce un prix de 3 000 $ pour ce masque-là. Qui va l'acheter ? Mais finalement, c'est le point de départ d'une histoire qui va durer peut-être plusieurs décennies.
Absolument.
Donc, bon, bah voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Donc franchement, moi je ne suis pas aussi dur que vous. J'attends,
non,
je vais voir.
Tu as raison, je suis d'accord, moi aussi, on a tous envie de le tester de toute façon. Et oui, je précise pour ceux qui nous regardent, parce que c'est vrai qu'on fait tourner des images, que ce n'est absolument pas des leaks ou quoi que ce soit, c'est vraiment des concepts qui ont été imaginés par les internautes.
C'est des concepts basés quand même sur, notamment dans le New York Times et Information, des employés ont montré des dessins qui correspondent aux produits, et on décrit justement quelque chose qui ressemblerait à un masque de ski, qui serait beaucoup plus fin qu'un casque Quest, et qui aurait un arceau, je crois, façon AirPods Max. Donc c'est complètement cohérent avec la description qui est faite. Après, évidemment, ça, c'est pas des vraies images, hein, c'est certain, c'est bien de le préciser.
Mais ce qui est hyper intéressant, effectivement, alors on avait déjà eu l'occasion d'en parler la semaine dernière ou il y a 15 jours, donc je vais pas m'épiloguer là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment le point, quand on s'intéresse à la tambouille interne d'Apple, comme c'est un peu notre cas à tous, c'est le fait que ça ait mis au jour un choc des cultures en fait à l'intérieur d'Apple, entre d'un côté les ingénieurs, de l'autre côté les designers, qui sont quasiment un état dans l'état, avec d'un côté Tim Cook et les ingénieurs qui veulent pousser la sortie du produit en disant c'est bon, ça fait 8 ans qu'on bosse dessus, maintenant faut qu'on ait, enfin voilà, c'est peut-être pas parfait parfait, mais il faut quand même qu'on ait un produit commercial à présenter. Et puis les designers qui disent non, tant que ça ne sera pas absolument parfait, et qui sont pas du tout fans justement de l'histoire de la batterie avec un fil machin, qui est effectivement un peu éloigné de la culture d'Apple telle qu'on a l'habitude, avec des produits qui sont extrêmement épurés, parfaitement, enfin parfaits d'un point de vue design. Là on aura probablement pas ça. Les designers disent non, il faudrait attendre en gros que la miniaturisation des composants permette d'avoir un casque qui serait, qui ferait la taille de lunettes globalement, mais ça il faut 5 ou 10 ans. Donc forcément d'un point de vue commercial il y a un clash, mais c'est intéressant de voir que voilà, chez Apple il y a ces tensions là.
Et puis bon, pour Tim Cook qui est pas en fin de parcours, mais bon voilà, il va pas rester indéfiniment à la tête d'Apple. Aujourd'hui ça a été un excellent soutien des gammes de produits qui existent, et on sait avec quel talent il a réussi à faire progresser le business d'Apple. Mais malgré tout, il faut bien que, à côté de son portrait dans le grand couloir d'Apple qui mènera au nouveau PDG, il faut qu'il y ait en dessous, ben voilà, l'AVR a commencé sous l'ère de Tim Cook. Et je pense que lui aussi a envie, comme Steve Jobs a révolutionné plein de choses, lui, il a envie de se dire, bah, écoutez, moi, je veux être aussi l'acteur de cette révolution de chez Apple. Et après, c'est de l'ego, peut-être, mais aussi, c'est peut-être sa conviction. Il a toujours dit depuis des années...
La réalité augmentée,
on y croit. C'est très intéressant. Il a toujours dit des trucs comme ça. Il n'a jamais dit on va y aller. Il a toujours dit ça, c'est quelque chose qu'on surveille, qu'on regarde, qui nous intéresse, qui est incroyable, etc. etc. Donc voilà, il y a aussi tout ça. Et ça fait partie de l'héritage aussi.
Il se dit qu'il ne peut pas partir tant que le truc est
balancé.
C'est évident que c'est son projet principal depuis plusieurs années. Et que c'est aussi pour ça qu'il le
pousse. Je pense qu'il faut qu'il soit là au lancement. Il faut qu'il soit là aussi à la stabilisation du produit.
Oui, mais il doit être là pour deuxième génération, voilà, pour le modèle moins cher. Enfin, il est encore là quelques temps.
Si tu réfléchis, il n'y a que finalement dans les nouveaux produits Apple, il n'y a qu'un nouveau produit qui a vu le jour sous Tim Cook, c'est l'Apple Watch 2014. Ouais. Sinon, tous les autres, ça datait de l'ère Steve Jobs.
AirPods qu'on peut mettre en petit bonus, qui pour moi, au vu du succès, quand même, sont une catégorie notable.
Mais c'est vrai que
si on compare les 10 dernières années de Steve Jobs aux 10 premières années de Tim Cook, la différence en termes d'innovation, elle est plus petite. C'est certain. On verra.
Juste une chose pour terminer sur les masques de réalité mixte. On parle beaucoup d'Apple, évidemment, de Meta, etc. Mais cette semaine, j'ai reçu une start-up française qui est sur ce sujet et qui fabrique. Et bien, alors, tu vois, c'est ça qui est fou. C'est que. Est-ce que tu connais Lynx ?
Ça ne me dit rien.
Et bien, voilà.
Comme un animal.
Tu les connais ?
Oui, j'étais allé les voir il y a un an.
Ils sortent leur casque là, de réalité augmentée, enfin de réalité mixte, plus précisément.
Rien à voir avec la console, la Lynx à l'époque.
Non.
Dont les plus vieux se souviendront.
Incroyable.
Ouais. Entre les Game Gear et la Game Boy.
Portable.
Ouais, t'avais la Lynx.
Un truc de fou, vraiment.
Elle n'a jamais tellement fonctionné.
Non. Mais elle était géniale à l'époque, écran couleur. Enfin, c'était un truc de fou. Nicolas n'était même pas né à l'époque.
Bah oui.
C'est ça qui est horrible.
Donc, je sais pas de quoi vous parlez.
Le Lynx R1, qui est un casque de réalité mixte, il est déjà disponible. Il sort là, ces jours-ci en France. Et le fondateur de cette boîte est venu dans Tech & Co. Et il m'a confirmé qu'Apple travaillait là-dessus. Parce qu'il me dit, vous savez, on est dans un monde qui est tout petit. Tout le monde sait ce que font les autres. Il m'a dit que Samsung prévoyait un truc pour la fin de l'année. Donc, Samsung va rentrer dans la bataille de l'AR et de l'AVR. Apple, ils sont dans les starting blocks. Okay. Il m'a confirmé toutes ces tensions qu'il y avait au niveau de la direction, parce qu'il y en a certains qui voulaient attendre et d'autres qui disaient non, maintenant, il faut le sortir. Et ce que je trouve de fou dans cette histoire-là, c'est que Lynx sort un produit qui ressemblerait visiblement à toute la nouvelle génération de ces casques et personne n'en parle. Donc je t'invite à creuser là-dessus. Nico, ça serait bien aussi de voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. J'ai pas eu l'occasion de tester le produit, mais je l'ai vu. Il est très innovant. C'est un produit un peu comme
une visière
qui se remonte. Donc là, si tu veux, tu vois le monde qui t'entoure. Tu baisses la visière et là, tu te retrouves avec un système, si tu veux, immersif, où tu as des écrans qui sont devant tes yeux. Et là, tu as des informations qui s'affichent avec des caméras qui vont projeter dans l'écran ce que tu vois véritablement, avec en plus d'informations.
Et c'est eux-mêmes qui conçoivent les applications, parce que ça va être ça le nerf de la guerre, tu vois.
C'est
quand celui d'Apple va sortir.
C'est sous Android et c'est les applications Unity qui appellent les développeurs à concevoir des en réalité mixte. Mais après, comme c'est du Android, comme le Quest, les applications du Quest peuvent être portées dessus.
J'espère juste pour eux que ce ne sera pas le Arcos de l'iPad, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, mais je leur souhaite plus de succès que ça.
Ce que je veux dire, pareil,
ils ont Qualcomm derrière, qui aide beaucoup. Ouais, okay. Ils croient beaucoup en eux, donc ça peut les aider.
Ouais, bien sûr. Et enfin, le gars, je vous invite à le rencontrer, à l'interviewer. Il est passionnant. C'est un jeune homme qui a 28 ans, qui a la tête de ce truc-là. Ils ont déjà levé beaucoup d'argent. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que personne ne les connaît. Nous-mêmes, nous ne les connaissons pas. Moi, je suis tombé par hasard en surfant sur le web. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce masque français là? On a un peu creusé, on les a reçus et c'est passionnant. Mais c'est fou quand même. Et ça, c'est aussi assez, comment dirais-je, révélateur de notre problème à nous. Ouais, on fait des trucs incroyables, mais personne ne le sait.
Ouais, je suis tout à fait d'accord.
T'as raison.
Enfin bref, on va faire ma parenthèse,
plus aussi parce que attends, c'est pas
normal. Ouais, mais c'est une petite boîte d'ingénieurs. Ils ont la tête dans le guidon. Ils sortent leur truc, mais ils savent pas faire.
Mais moi, je demande qu'à découvrir.
J'étais allé, moi, dans leur bureau. On a un reportage dans leur bureau pour voir justement les laboratoires où ils fabriquent les optiques sur le YouTube de Numérama. Et c'est vrai que ça fait vraiment très start-up. Tout est très petit et ils ont beau avoir l'intérêt de Microsoft, de Qualcomm, de toutes les grosses entreprises américaines. Derrière, au final, on ne parle pas beaucoup d'eux en Europe. Et je trouve, comme François, que c'est vraiment dommage.
J'espère
pouvoir tester rapidement le Lynx R1 et voir ce qu'il a dans le ventre.
Mais ce qui est amusant, c'est qu'on dit tout le temps, en Europe, on est nul, on a raté le virage du cloud, on a raté le virage de l'IA, etc. Là, les gars, on a peut-être une boîte, alors qui est toute petite, qui fait un truc. Le masque existe, il est beau, machin. Attendez. Allons-y. Peut-être qu'on peut avoir une place. Souveraine dans ce domaine-là.
On peut espérer pour eux que l'annonce d'Apple va booster leur notoriété. Hein, parce que j'imagine qu'un peu à l'image de ChatGPT dans Nice Matin, le jour où Apple...
Qu'Apple sorte ce truc-là pour qu'on puisse peut-être s'intéresser un petit peu plus à eux. Mais je trouvais que même nous, dans notre milieu de journalistes, qu'on ne soit pas au courant de ce qu'ils font, et que moi je sois tombé par hasard, c'est qu'il y a un problème. C'est fou. On referme la parenthèse. Donc pour la R, on est bon. Qu'est-ce qui nous reste dans l'actu? Donc TikTok, évidemment, toute l'actualité autour de TikTok. Et pour les fonctionnaires de certaines institutions, ça va être fini là.
Ça commence à sentir un peu le sapin.
Pas pour TikTok d'ailleurs.
Ouais.
Tout le monde, c'est les applications récréatives.
Ce qui fait que d'ailleurs c'est assez intéressant parce que ça calme un peu le jeu. C'est-à-dire que c'est plus on cristallise TikTok en disant TikTok c'est les méchants, les autres sont les gentils. On veut pas que les gens utilisent TikTok. Vous pouvez utiliser les autres. Là, tout le monde est au même niveau finalement.
C'est quand même pas mal TikTok.
Et c'est très français comme stratégie.
C'est Netflix, c'est Insta, c'est Meta, c'est Twitter.
Oui, mais c'est un peu politique comme décision. C'est très français.
Je suis d'accord. Mais c'est un signe aussi qu'on ne veut pas se mettre à dos la Chine directement.
Pour moi, c'est ça. C'est que c'est la décision diplomatique et de dire.
C'est ce discours derrière.
Mais on n'accuse pas la Chine, nous, la France. J'ai lu quelques articles, notamment sur Politico aux États-Unis. C'est très drôle cette histoire d'ailleurs, parce que l'article Politico, ils écrivent en français ou en anglais. L'article en français, il est hyper gentil, je dirais pas ça, mais il raconte que la France bannit les applications. Et l'article en anglais, il est hyper taquin sur la France qui est un peu dans la mauvaise foi et qui fait semblant de bannir des choses pour pas bannir TikTok. Donc il y a toujours ce recul-là. Mais c'est vrai que ça sent pas bon pour TikTok en général. Moi, je faisais partie des gens qui, il y a quelques semaines, pensaient que c'était impossible que TikTok soit banni au vu de sa puissance, de son économie mondiale. Je pensais vraiment pas qu'on était sur un scénario à la Huawei. Je me suis fait, à mon grand malheur, les 5h30 d'audition du patron de TikTok, je suis au congrès américain
J'ai lu ça sur Twitter, tu as dû te régaler.
Ah, c'était long, c'était très très long. Mais surtout, quand on...
Tu avais South Park à côté.
Non, même pas. J'ai vraiment tout écouté.
T'étais concentré, vraiment.
Il y a eu quelques petites passes d'armes rigolotes, quand même. C'était sympa.
Mais monsieur Chouchou, là, il s'en est pris, mais... c'était un punching ball.
Déjà, quand il parlait, on disait, vous avez pas le droit de parler, vous êtes pas notre égal, vous êtes pas machin, tout ça et tout. On lui posait une question où c'était oui ou non. Il y a eu des questions en mode oui, est-ce que la Chine est responsable pour la mort des Ouïghours? Oui ou non? Attendez, il faut que je développe. Non, oui ou non? Mais je dois développer. Ok, donc vous êtes coupable. Et puis je vous rappelle que je suis pas chinois, moi je viens de Singapour. Oui, mais quand même.
Mais c'est ça,
mélange d'amalgames. Et il y a eu une phrase que j'ai trouvé très juste.
Entre TikTok et les Ouïghours aussi, je veux dire.
Ça part un peu dans tous les sens.
Ça mélange énormément de choses. Mais il y a eu une phrase d'un congressman républicain qui était intéressante, qui disait: vous avez réussi l'exploit de réunir les démocrates et républicains, vous êtes au même niveau que Vladimir Poutine. Voilà, je pense que tout est dit sur ce qui va arriver à TikTok dans les prochaines semaines. Quand on en est là, face aux États-Unis, les États-Unis divisés, qui sont toujours à disputer sur tout, qui sont unanimement d'accord pour dire que cette application est chinoise, donc cette application est communiste, donc cette application est dangereuse. Bon, voilà, il faut un miracle pour sauver TikTok à ce niveau-là. Ouais. TikTok a beau dire on a une économie, on a plein de créateurs derrière nous, la réalité c'est que ça va pas bien finir pour eux et que l'Europe est un peu en train d'anticiper tout ça en menant ses propres auditions et en s'interrogeant elle-même sur ce qu'elle doit faire de TikTok.
Mais après, il y a une réalité derrière quand même, parce que effectivement, il a servi de punching ball. Après, c'est un peu le jeu de ces auditions. Hein. C'est toujours comme ça. Oui. Tu vois, quand Zuckerberg était passé, il faisait pas le malin non plus.
Non, Zuckerberg. Mais alors, je trouve que j'ai trouvé pour avoir. J'avais aussi suivi Zuckerberg.
C'était plus violent.
C'était le niveau de violence, c'était beaucoup plus. Ouais. Là, il s'est vraiment fait maltraiter.
Mais il y a quand même des. Tu parles de chouchou.
Zuckerberg, c'était dur envers lui et ils lui ont montré que c'était eux les patrons. Mais ils l'ont quand même respecté en tant que chef d'entreprise américain. Là, lui, il était vraiment un étranger qui n'a pas sa place ici, il s'est fait traiter de communiste 90 fois alors que c'est un économiste de Singapour, ça n'a pas de sens.
Non, mais t'as raison sur le fait que voilà, ils s'en prennent à lui, mais c'est pas, je pense, c'est pas personnel, c'est ce qu'il incarne. Et il y a une réelle inquiétude derrière sur effectivement est-ce que finalement TikTok c'est l'œil de Pékin dans nos smartphones. Il y a une vraie interrogation, et là-dessus, je suis désolé, mais TikTok n'est pas clair du tout dans ses réponses.
Mais comme l'État est l'œil de Washington aussi, d'un côté.
Absolument.
Je veux dire, non.
Peut-être, oui, non, peut-être, t'as raison. Oui, mais bon, ils s'en foutent, ils sont américains. Donc,
il n'y a pas une passerelle entre l'État et le gouvernement américain sur des données sensibles. C'est obligé.
Oui, mais c'est des Américains, ils défendent leurs intérêts nationaux.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pointe toujours du doigt la Chine, mais je pense que de l'autre côté, c'est pareil.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, nous, on est au milieu et on compte les points.
Il l'a dit à un moment, ce qu'il a dit. Non, mais attendez, vous vous souvenez, Facebook, Cambridge Analytica, ça vous dit quelque chose? Je crois pas qu'ils étaient plus exemplaires. Enfin, il l'a dit de manière un peu plus mesurée, parce qu'il était
dans cette personne qui voulait le tuer.
Voilà, donc il y allait mollo, mais c'était quand même ça. Et il avait raison, il avait raison. Mais là, les Américains, ils sont dans leur rôle, ils défendent leurs intérêts stratégiques, et c'est complètement logique. Et il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu, effectivement, de la surveillance. Qu'est-ce que l'application TikTok installée sur mon téléphone peut récupérer comme données, faire remonter, et est-ce que ces informations, à un moment, le Parti communiste chinois y a accès? Et franchement, on n'a pas vraiment de réponse sur cette question-là. On n'a pas de preuves, donc c'est très compliqué.
Mais on n'a pas de preuves de l'inverse non plus.
Non, c'est vrai, mais oui, mais même dans leur réponse, ils sont ambigus. Et l'ambiguïté des réponses fait que tu as quand même plutôt tendance à te dire, bah en fait, il y a anguille sous roche, quoi. Donc bon.
Mais quand on connaît un peu le fonctionnement, c'est hautement probable même.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Même si on ne sait pas, on se dit que dans le schéma de fonctionnement de la Chine et du gouvernement autoritaire chinois, c'est hautement probable.
Ouais, probable, absolument. Donc tu as cet enjeu-là.
En tout cas, ce qui est certain, je suis pas aussi convaincu que le Parti communiste chinois contrôle TikTok. Hein. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que il y a une loi en Chine.
Je pense pas que ce soit contrôlé. C'est peut-être accéder à certaines données à la demande du gouvernement chinois.
J'irai
pas plus loin, mais je pense que
le gouvernement chinois a légalement le droit d'accéder aux serveurs d'une entreprise sur demande, de la même manière que plein de gouvernements dans le monde peuvent faire des demandes comme ça, sauf que voilà, en Chine, on imagine que c'est plus compliqué de dire non. Après, TikTok a des promesses qui sont pas mauvaises. TikTok dit... ils ont un projet qui s'appelle le projet Texas. Il y a quand même le représentant du Texas qui a dit qu'il salissait le nom du Texas.
C'est ça. Changer de nom, il lui a dit.
C'était alors vraiment lunaire, cette audition. Le pauvre monsieur, il a rien demandé. Il se retrouve sali comme ça pendant 5h30. Peu importe. Mais le projet Texas consiste à dire que toutes les données des Américains vont être confiés au serveur d'Oracle, qui est une entreprise américaine, sur des serveurs basés au Texas. Donc à la fin, en fait, si le truc il est contrôlé par une entreprise américaine, ils ont quand même la preuve, les Américains, que leur version de TikTok, elle ne tourne pas sur des serveurs en Chine. D'autant plus que là, les serveurs, je crois qu'ils sont à Singapour, les serveurs, ils sont même pas en Chine. Donc il y a vraiment, en fait... Moi, ce qui me dérange dans cette audition, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de volonté de l'écouter, de réfléchir à cette proposition. La décision, elle était prise. Le discours d'introduction de la rapporteuse a consisté à dire, voilà, on s'interroge sur TikTok, on s'interroge sur la Chine, c'est pour ça que votre application, on va la bannir. Discours d'introduction. On en est là, quoi. Enfin, il n'est pas venu pour se défendre, il est venu pour se faire éclater par un gouvernement américain qui a déjà pris une décision.
Et je pense que les alliés de TikTok, c'est finalement les centaines de millions d'utilisateurs.
Bah c'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a fait un message aussi sur TikTok pour en appeler aux 150 millions d'utilisateurs américains en disant vous êtes 150 millions sur la plateforme. Enfin voilà, en gros, c'est un peu ça.
C'est la moyenne des États-Unis.
Un moyen de pression. C'est une les seules applications qui ont été téléchargées plus de 3 milliards de fois dans le monde. C'est un truc de fou.
Non, mais va dire aux ados et aux jeunes adultes maintenant, ça y est, bah, écoutez les gars, allez sur Facebook ou sur Snap.
Oui, mais c'est l'autre problème, parce qu'il y a le côté collecte des données, mais ce qui est reproché aussi par les autorités américaines et pas seulement à TikTok, c'est la volonté délibérée d'abrutir la jeunesse occidentale. Ouais. Et je dis, ça fait partie d'une volonté, d'un plan stratégique. Et on sait bien qu'il y a deux versions de TikTok. Tu as la version chinoise où on te montre globalement en moyenne des vidéos éducatives courtes, des expériences scientifiques, etc. Et puis la version américaine ou européenne où on te montre des demeurées, pas que évidemment, mais ou des influenceurs divers et variés. C'est pas exactement le même contenu. Donc forcément, c'est aussi ça qui déplaît aux autorités américaines. Mais encore une fois, vous avez raison de dire que c'est deux poids deux mesures, parce que le grand gagnant de tout ça, s'il y a un bannissement, c'est évidemment Meta, évidemment Instagram, qui fait globalement la même chose. C'est-à-dire que en termes de débilisation de la jeunesse, c'est exactement la même chose.
En fait, moi, je préférais qu'on assume la piste de on veut sauvegarder et protéger nos entreprises américaines, et ça serait beaucoup plus simple que d'inventer des menaces de partis communistes,
etc. Juste un mot pour terminer. Alors bon, notre temps est imparti, mais je voulais juste dire un mot sur un coup de cœur hardware. C'est la nouvelle enceinte Sonos, la ERA 300, qui est sortie il y a quelques jours à peine et que j'ai eu le plaisir de tester. Et alors moi, j'adore le son, parce que on fait un métier où on est toujours très sensible au son, hein, bien sûr. Et j'aime bien tester des casques, des enceintes, etc. Et la toute nouvelle enceinte Sonos m'a interpellé parce que elle est stéréo. C'est la première enceinte stéréo Sonos. Tu sais, c'était toujours des enceintes mono. Pour avoir la stéréo, il fallait toujours en coupler deux. Ouais. Et là, la ERA 300 est stéréo. Et alors, elle est rigolote, on dirait un Diabolo. C'est-à-dire qu'elle a deux enceintes de chaque côté. Elle est un peu massive. Hein. Mais, écoutez, c'est pour moi une vraie réussite, cette enceinte. Elle a un super son. Tu ressens la stéréo, malgré son volume assez étroit.
Elle est compacte.
Quand tu es au milieu, tu sens les effets stéréo. Ouais. Et alors, elle est compatible Dolby Atmos. Et j'étais assez dubitatif concernant le Dolby Atmos. Je trouve qu'avec les AirPods, le son parfois est assez discutable. Mais alors, quand vous mettez via l'appli Sonos des fichiers en Dolby Atmos, vous avez d'un coup un son qui devient, mais qui remplit la pièce. C'est hallucinant.
Excellent.
Alors, il faut être évidemment abonné à un service où il y a du Dolby Atmos. C'est Apple Music et Amazon, je crois. Ouais. Il n'y en a pas énormément. Hein. C'est un peu fastidieux parce que tu sais pas trop si ton son est Dolby Atmos, il faut passer par l'appli Sonos pour que tu saches exactement, etc. On voit que c'est le début, mais franchement, le son est impressionnant. C'est fou comme un petit appareil comme ça peut restituer une puissance sonore. Et puis, c'est Bluetooth. C'est-à-dire que c'est à la fois Wi-Fi, donc on est dans l'environnement Sonos avec du multi-room, mais aussi si un pote arrive à la maison et que tu veux par exemple lui donner accès à ton enceinte via une playlist, eh ben il peut se connecter. On perd le Dolby Atmos dans ce cas-là, parce que le Dolby Atmos passe que par le Wi-Fi, mais c'est plutôt pas mal. Bon, c'est 500 euros quand même. Hein.
Ouais. Voilà. Ouais, mais bon, la qualité derrière, franchement.
À choisir, si vous voulez une enceinte, en tout cas, allez la tester. Hein,
elle est bien.
Jugez par vous-même.
Il y a la ERA 100 qui a.
Il y a la ERA 100 qui est plus petite, qui est mono, qui est aussi.
Et tu crois que la 500 à 500 euros par rapport à la petite de Vialet qui est à 700, c'est compétitif?
Moi, je pense que c'est discutable. L'avantage de la de Vialet, c'est qu'elle est sur batterie. Ouais. Tu peux la transporter.
Oui.
La Sonos, tu ne peux pas la transporter. Donc, c'est compliqué véritablement de les comparer.
Okay.
Je pense que la qualité sonore de la Sonos doit être un petit peu supérieure.
Je pense aussi.
Voilà. Messieurs, c'était un vrai plaisir que de passer cette heure ensemble. C'est passé à une vitesse encore plus folle que d'habitude.
C'est parler d'IA, ça. Ça va toujours très vite.
C'est ChatGPT qui a écrit mes interventions du jour. C'est très simple pour moi.
J'ai essayé, moi. T'as essayé de te faire écrire des articles. Moi, j'ai essayé les chroniques, mais ça rend pas grand. Alors, c'est pas top.
On va en parler dans une autre émission, mais moi, j'ai un usage d'assistant pour les articles. C'est-à-dire que je lui donne toutes mes notes et je lui demande de me les trier point par point et de me trouver des citations sur des thèmes. Et ça marche très bien.
Pas mal.
Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci Anthony avec un superbe t-shirt sur Skynet. Voilà. C'est le terminateur de l'info, Anthony, on peut le dire, c'est ça.
Je croyais qu'il allait dire le Schwarzenegger, mais bon.
Oh, le Terminator.
Terminator, ça, c'est beaucoup mieux.
T'es immortel. Ou alors il faut te tremper dans la.
Comment oui, ça dans la lave. Oui, c'est ça, absolument.
Donc, mais du coup, bon, tu seras de retour la semaine prochaine.
Bien sûr.
I'll be back.
Et alors, Nicolas, toi, tu reviens quand tu veux.
Bah écoute, voilà, avec
tu sais
plaisir.
Le bienvenu, chef de rubrique tech. Chez Numérama.
C'est ça.
Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. On sera là le week-end prochain. À très très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.